Aujourd'hui, ce sont les martyrs d'Angers, des martyrs, pas d'Angers, mais c'est d'Angers, D'Angers, donc d'une région d'où nous venons, nous les Québécois de souche. Bon, on me dira que je suis chauvin, que je parle souvent des Québécois de souche, les Québécois d'autrefois. Que voulez-vous? Si les Italiens parlent de leur groupe avec joie, ils ont bien raison. Si les Juifs en font autant, les Grecs et puis les Portugais, etc., pourquoi pas nous? Après tout, on a bien le droit, nous sommes, quoi, 80-quelques% de la population. Et je crois que c'est sans irrespect à l'égard des autres. Et j'espère qu'ils nous aiment quand même, et qu'ils s'intéressent à nous, et qu'ils sont intéressés d'entendre parler de ces martyrs extraordinaires, qui sont presque tous des laïcs, oui. Phénoménal. Des laïcs. Canonisés, c'est-à-dire béatifiés par le pape Jean-Paul II en 1984. Ils ont été martyrisés il y a 2 siècles, en 1794, à Angers. Où il y a des villas, des jardins, superbes, là, dans la commune d'Avrillé, qui est collée contre Angers. C'est aux portes d'Angers, ça. Où est-ce Angers? C'est à 300 kilomètres de Paris, vers l'ouest de la France, donc en direction de la Normandie, la Bretagne, etc. C'est sur la route de Rennes. Rennes est à 25 kilomètres plus loin. Et c'est aujourd'hui le type même de la bonne banlieue que Avrillé. C'est une espèce d'outremont, si vous voulez. Ça respire l'aisance, hein, puis la douceur de vivre. Et c'était pourtant, il y a 2 siècles, un lieu d'horreur, de mort. Imaginez, on y a fusillé, en un an, comme ça, rapidement, 2200 personnes, des hommes, des femmes, des adolescents. Alors c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est très, très, très intéressant de voir le courage de ces gens qui portent nos noms. Bien oui. Des gens qui s'appellent comme nous, qui ont des noms d'ici. Ça peut être le nom d'un voisin, d'un cousin. Ça peut être votre nom même. Il y a même une Louise Poirier là-dedans. C'est un nom bien d'ici, hein? Et plusieurs autres noms comme ça. Alors c'est assez intéressant. Et ça nous stimule, je crois, quand on reconnaît nos noms de gens qui sont morts comme ça, comme des saints. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, ceux qu'on appelle les martyrs d'Angers étaient 99. Le plus jeune avait 23 ans. Le plus âgé, 85. C'était des prêtres, des religieuses et des laïcs, mais surtout des laïcs. Ils sont vénérés encore aujourd'hui dans tout l'ouest de la France. Pour avoir professé, confessé leur foi au moment de la Révolution. Leur mémoire y est très, très vivante. Je vous le rappelle, nous venons de cette région, ce sont nos cousins, nos frères, nos sœurs, ça en fait, ces gens-là. Hein? Il n'y a que 2 siècles. Nous sommes ici, d'accord, depuis plus de 300 ans, mais pour la plupart d'entre nous, mais ça ne fait rien. Un culte paroissial, familial aussi leur est rendu, même de nos jours. Des centaines de familles s'honorent et sont très fiers d'avoir compté l'un d'eux parmi leurs membres, et nous pourrions en faire autant. Vous allez voir, vous les reconnaîtrez, ces noms québécois, tout à l'heure. On vient prier, d'ailleurs, au lieu même où ils ont été fusillés. Il y a là une petite chapelle. Il y a un enclos qui est entouré de murs, où il y a 10 tumulus, vous savez, une toute petite colline, là. Des tumulus rectangulaires, alignés, qui marquent les emplacements des fusillades et les fosses communes. Dans la chapelle, sur les murs de la nef, on voit accrocher de grands tableaux, et c'est intéressant parce que c'est tout écrit à l'encre rouge, et c'est la liste impressionnante des noms des victimes. Hein? Et nos noms. 99 noms qui se retrouvent dans le cœur, gravés ici sur des plaques de marbre. Et ces 99 noms sont donc ceux des victimes saintes, celles que l'Église a élevées sur les autels et reconnues pour martyrs de la foi catholique. À l'époque, la mort des 99 martyrs d'Avrillé est passée presque inaperçue parce qu'il y avait une immense tuerie. On en a tué tellement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, leur sacrifice ne forme qu'une toute petite partie d'un immense holocauste. Oh, j'utilise le mot holocauste sans irrespect à l'égard des Juifs. C'est un holocauste comme il y en a tant eu à travers notre histoire, et sans doute que l'Holocauste des Juifs est un Holocauste abominable, épouvantable, tragique, mais pensons aussi aux derniers Holocaustes de ces pauvres Noirs, n'est-ce pas, au Rwanda, on dirait que ça ne finit plus, hein. Alors, c'est une petite partie de ce grand Holocauste. Il faut situer tout ça. Entre le mois de novembre 1793 et le mois de juillet 1794, donc sur une période de 6 mois, environ 7000 personnes, oui, je dis bien 7000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont péri à Angers dans les environs immédiats. Ils étaient victimes de la répression. Et après la déroute de l'armée vendéenne, vous savez, c'est les chouans, on voit ça dans des films, là, les Vendéens qui sont très fidèles à leur foi chrétienne et au roi. Je suis allé en Vendée, j'ai séjourné là d'ailleurs pour prendre des vacances, on n'est pas loin du bord de la mer, de l'océan Atlantique, là. Et c'est touchant parce que ces gens-là parlent leur Vendéen, et quand j'étais avec eux, des fois, ils se mettaient à parler le Vendéen. Et quand ils riaient, je riais en même temps. Ils étaient tout surpris, ils se demandaient, « Mais qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'on vous dit ?» Mais je dis, « Je comprends parce que je comprends un certain langage qu'on appelle chez nous le joual. » Et puis, ça ressemble un peu. Ils ont ri un peu, ils trouvaient ça un peu curieux. Et ce sont des gens un peu secrets, mais très sympathiques. Alors, il y avait donc, après la déroute de l'armée vendéenne, bien, les forces républicaines, les forces révolutionnaires, des soldats réguliers, des gendarmes, des gardes nationaux, ont impéré a opéré bien une immense rafle. Ils ont capturé des milliers de prisonniers, des femmes, des enfants qui avaient suivi l'armée catholique et royale, n'est-ce pas, jusqu'à sa défaite. Ils sont amenés à Angers. Ils étaient donc fidèles, ces gens-là, au roi Louis XVI. Et ils ont été entassés dans les prisons de la ville. Ils ont été traduits devant les juges du comité de surveillance révolutionnaire. Puis ils ont été fusillés après un jugement bien rapide. Vous savez, ils procédaient très, très rapidement, en quelques minutes, quoi. Quand les prisons débordent, là, il n'y a même pas de jugement. On fusille tout de suite. C'est incroyable, hein? Et les grandes exécutions collectives ont commencé le 2 décembre 1793. À partir de cette date, on fusille presque tous les jours des centaines de prisonniers. À l'intérieur de la ville d'Angers, c'est-à-dire à des endroits que l'on appelle Saint-Gemme et au Pont de C, C-E accent aigu, je vous parlerai un jour d'une sainte qui porte ce nom, de C, qui, ce sont des localités qui sont toutes proches de danger. Au Pont de C, aurait été tué entre le 2 décembre 1793 et le 12 janvier 1794, donc en 5 ou 6 semaines, là, 2700 personnes. 2700 personnes, hommes, femmes et enfants. Hein. Un vrai carnage. C'est effrayant. L'exécution a lieu au bord de la Loire. Ça vous dit quelque chose, hein, la Loire, les châteaux de la Loire, le charme des châteaux de la Loire. Eh bien, c'est là que se déroulaient ces drames abominables. On fait mettre les victimes à genoux, et après les avoir dépouillés de leurs vêtements, comme Jésus-Christ au moment de sa passion, au moment de sa crucifixion, eh bien, on les fusille par derrière, comme des animaux à l'abattoir. À partir du 15 janvier, le théâtre change. La scène des tueries se déplace. On part du sud, on va au nord d'Angers. Désormais, les exécutions auront lieu dans le parc de la Haie des Bons Hommes. C'est l'endroit où il y avait un couvent de l'ordre supprimé, là, de Grandmont. C'est des moines, ça. Monsieur Prudhomme vous en a parlé dans son histoire du monachisme le mardi matin à 9h30. Ah, c'était sur la commune, sur le territoire de la commune, ou si vous voulez, de la banlieue, là, d'Avrier. C'est aux portes d'Angers, ça, c'est tout près. Et du 15 janvier au 16 avril, on compte 15 fusillades dans cet endroit. On utilise aussi la guillotine. Vous savez ce que c'est une guillotine. Je le dis pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas ça, là, cette espèce de grand couteau qui descend d'un seul coup et qui tranche la tête. Le roi Louis XVI a été guillotiné comme ça. Alors, l'emploi de la guillotine, ça coûte un peu cher. C'est réservé aux condamnés riches, imaginez. Parce qu'on confisque leurs biens, alors comme ça, on peut payer l'exécuteur, mais on peut payer aussi les gens qui ont installé la guillotine ou qui la surveillent pour pas que personne s'en serve durant la nuit. Et l'instrument est installé depuis la fin de décembre sur la place du ralliement. et fonctionne presque tous les jours pour de petites fournées de 4 ou 5 condamnés. La foule assiste à ça. Hein. Les 99 martyrs font partie de ces victimes de la haie aux bons hommes, ou si vous préférez, aux bonhommes, et de la place du ralliement. 15 sont guillotinés au ralliement, le premier le 30 octobre 1793, le dernier le 14 octobre 1794, donc sur une période d'un an. Il y a 84 qui sont fusillés à la haie aux bons hommes, avec 2400 autres victimes. Et les 99 martyrs, ceux qui ont été béatifiés, sont perdus dans cette foule, une foule vraiment pitoyable. Ils se confondent avec elle. Pas un groupe séparé, hein. Certains appartiennent à la même famille, la plupart se connaissent pas. Non seulement les martyrs qui ont été tués pour leur foi ne constituent pas un groupe à part, ne subissent pas leur supplice le même jour. Il y a d'abord ceux que l'on guillotine et ceux que l'on fusille. Il y a ensuite les condamnés des différentes fusillades. Antoine Fournier, un nom bien de chez nous, hein. Antoine Fournier fait partie de la première fournée, qui est du 12 janvier. Charlotte Lucas. Je ne sais pas si c'est parent avec les bijoutiers Lucas qu'on avait rue Sherbrooke. Victoria Gusteau et Félicia Prisset, de la seconde, du 18 janvier. Parmi les 400 victimes du 1er février, 400 victimes le 1er février, c'est aujourd'hui le 1er février, c'est pour ça qu'on peut célébrer la mémoire de ces gens-là aujourd'hui. Eh bien, figurent 47 des bienheureux martyrs, dont les deux religieuses, qui étaient des filles de la charité, qui venaient d'une autre région, elles travaillaient là, à Angers, Marianne Vaillot et Odile Baumgarten, hein, ce sont des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, là. Avec ce beau costume immense qu'on n'imagine plus aujourd'hui, elles avaient l'air des colombes avec leur coiffe blanche immense, là. Catherine et Marie-Louise de la Sorinière aussi sont de la fournée du 6 février. Pierre Frémont, Louise-Marie Bessé de la Voûte et deux noms québécois, Marianne Haché. Elle s'appelait même Haché Dubois, étrange nom, hein? Mais j'ai pas le goût de rire, mais Marianne Haché et Louise Poirier faisaient partie du groupe du 10 février. Alors, le 10 février, si vous connaissez une Louise Poirier, elle pourra fêter l'anniversaire de l'entrée au ciel de cette bienheureuse Louise Poirier. Vous vous appelez Poirier, vous avez une petite fille, appelez-la Louise, en mémoire. Alors, ce jour-là, le 10 février, il y a eu 73 victimes. 26 d'entre eux ont subi le martyr le 16 avril, lors de la dernière fusillade. Et dans ces processions de victimes, là, qui vont mourir comme ça, souvent en chantant des cantiques, mais l'Église a retenu celles-là et les a proclamées martyrs et bienheureuses. Elle les a distinguées à cause des documents judiciaires qui prouvent qu'ils avaient été victimes en haine de la foi. On a des preuves, hein? Et l'Église ne prétend pas qu'il n'y a pas d'autres martyrs, mais elle dit qu'elle ne peut pas le prouver à cause de l'absence de documents. Puis aussi, du silence, souvent, il s'est rien dit. Hein? S'il y avait, il y en avait d'autres, ils resteront pour toujours inconnus, car on a fait des recherches complètes. Il y en a probablement d'autres qui ont été tués pour leur foi, puis ça n'a pas été inscrit. Le groupe, donc, des 99 martyrs demeure un minimum. Il est pourtant, à certains égards, tout à fait remarquable, c'est homogène, ce sont des martyrs semblables, car 84 sur les 99 sont des laïcs, je le répète, 84 sur les 99 sont des laïcs. Souvent on dit, il y a si peu de laïcs, vous en avez 84 d'un seul coup, là. Et 83 sont des femmes. Sur 99. C'est à l'honneur des femmes. Hein? En effet, on compte parmi eux seulement 12 prêtres et 3 religieuses. Et la prédominance, on peut dire, des laïcs. Ça distingue bien les martyrs d'Angers des autres martyrs de la Révolution française qui ont été béatifiés auparavant. Qui étaient tous des prêtres. Je vous en ai parlé le 2 septembre, là, des martyrs des Carmes à Paris, là, de la chapelle des Carmes où il y a l'Institut catholique maintenant. Moi, je logeais toujours rue Cassette, au 10 rue Cassette, c'est juste à côté. J'allais à la messe, là, et je passais dans la cour où avaient été martyrisés ces Carmes, pas ces Carmes, mais ces prêtres, Et ça m'émouvait tout le temps parce que je marchais dans le corridor où ils avaient été tués. C'était très, très émouvant. Et puis, il y a les martyrs des religieuses, aussi comme les 16 carmélites de Compiègne dont je vous ai parlé. Bernanos en a fait une pièce, on en a fait un film, tout ça, les carmélites de Compiègne, c'est tellement magnifique ces pièces. Poulenc en a fait un opéra d'ailleurs. Puis, les autres, comme on dit souvent dans le langage religieux, mais ça me fatigue, les simples fidèles. Nous sommes des simples fidèles. J'espère qu'on n'est pas simplistes trop. Donc, les simples fidèles, pour la plupart d'entre eux, les martyrs d'Angers, témoignent de la vitalité du christianisme. Car le christianisme, à cette époque, avait quand même une grande vitalité. Et leurs martyrs prouvent bien qu'il y a là une promotion du laïcat. Ça se fait pas par des discours, comme moi je fais, là. C'est pas ça, la promotion du laïcat. Ça se fait par le sang versé puis la fidélité à l'Évangile. Parler, ça veut rien dire. Je le répète, ce que je fais, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est d'être, hein. C'est ça qui fait que quelqu'un est un chrétien. Il y en a qui me disent, ah, c'est extraordinaire ce que vous faites. Je fais rien, je suis un robinet. Il n'est pas surprenant, d'ailleurs, que 83 des martyrs soient des femmes, parce que beaucoup d'hommes sont absents à ce moment-là, hein, du pays. Beaucoup ont été tués au combat, beaucoup font encore la guerre, et il faut dire aussi que pendant la Révolution, mais les femmes, souvent plus croyantes, on le sait, hein, et plus ferventes que les hommes, montrent un grand courage. Elles sont souvent plus courageuses dans les moments difficiles. Hein. Elles sont plus courageuses à défendre leur attachement à l'Église et à Jésus-Christ. Et les cas des prêtres réfractaires, vous savez, les prêtres qui voulaient pas signer, qui se cachaient pour célébrer la messe et donner les sacrements, et qui ne voulaient pas s'enfuir de la France, et pour servir les fidèles, quels prêtres extraordinaires que ces prêtres réfractaires. Ils étaient cachés, là, dans des granges, ou souvent dans des murs, dans des placards, dans des souterrains, dans les bois, dans des trous. Ils étaient nourris, en général, par des femmes qui étaient veuves, ou bien c'était des filles. Et ces prêtres étaient très nombreux. Alors ces femmes, quand elles se faisaient prendre, ben, elles étaient tuées. Elles risquaient leur vie. Quel courage, hein? Et ces femmes, ces laïcs, de toutes sortes de conditions, il y en avait depuis la noblesse. Oui, il y avait des nobles. Mais il y avait aussi jusqu'à des métiers mécaniques. Il y avait des domestiques, des gens très humbles, très simples. Mais quel courage ils avaient. Et les martyrs forment une espèce d'échantillon très représentatif de la société de ce temps-là. Et sur 43 victimes dont la profession et les qualités sont connues avec certitude sur les 99, voici la répartition. Il y avait 12 nobles, un rentier. Bon, je suis rentier, alors voilà, j'aurai mon patron. Faudrait que je découvre son nom. Deux fabricants, c'est-à-dire deux industriels, si vous voulez. Oui, deux industriels. Deux marchands. Vous qui vous m'écoutez dans vos magasins, là. Deux marchands, oui, des saints. Un officier de justice, bon pour les avocats, les juges. Une fille exploitant son bien, ça veut dire sans doute une espèce de marchande, j'imagine, je ne sais trop, ou qui a une petite terre. Et une fille de compagnie, c'est-à-dire une jeune fille qui travaillait probablement pour une noble. Une chirurgienne aussi, tiens, une chirurgienne, une maîtresse d'école. Maîtresse d'école, oui, j'en connais des maîtresses d'école qui sont des grandes chrétiennes. J'en connais une syrienne à Montréal. Il y avait 11 artisans ou artisanes aussi, 3 vignerons, un cultivateur, une fille qui restait chez elle à filer la quenouille, 2 domestiques et 2 journalières, c'est-à-dire des ouvrières. Pour les autres victimes, celles qui sont ni prêtres ni religieuses, mais les documents en notre possession n'indiquent pas très clairement la profession. Mais on a tout lieu de penser que ce sont des gens du peuple ordinaire. Et les deux tiers du groupe seraient donc des gens bien ordinaires, bien simples, mais animés d'une belle foi. Et la plupart des victimes, on dit un des témoins au procès de béatification, étaient des gens du peuple, dont l'histoire n'a point enregistré les actions, a-t-il dit. Alors, autre fait remarquable, ils appartiennent au peuple de ce pays dont la plupart de nos familles viennent, oui. 84 sont originaires des départements du Maine et Loire, les autres des départements limitrophes de la Sarthe, dans la région de Solèmes, l'abbaye de Solèmes, des Deux-Sèvres et de la Vendée. Il y a seulement 2 étrangères, on peut dire, c'est les 2 sœurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. qui venait de la Lorraine, parce qu'il y en avait une qui était née en Moselle, et l'autre, c'est vrai qu'elle venait de Fontainebleau. Non, c'est pas la Lorraine, ça. Et toutes les deux étaient religieuses, comme je vous l'ai dit, des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul. L'une et l'autre, depuis de longues années, elles soignaient les malades à l'Hôtel-Dieu d'Angers. Mais elles n'étaient donc pas des étrangères. Et la passion des 99 martyrs est brève. Un jour de janvier ou de février 1794, elles ont été arrêtées, puis on les a emprisonnées à Angers. Et là, elles ont subi un interrogatoire expéditif. Aussitôt après, elles ont été exécutées. La mortalité est terrible, hein? Au calvaire seulement, c'était un monastère, un couvent, ça, au calvaire. Il était désaffecté, évidemment, chassé. 428 personnes à cet endroit-là sont mortes de contagion ou de froid pendant ce terrible hiver. Hein? C'est épouvantable. Des mères, dit le rapport du chirurgien de ce couvent du calvaire, qui servait de prison, ont vu périr, c'est le texte, ont vu périr de misère entre leurs bras 5 à 6 de leurs enfants sans pouvoir leur procurer le moindre soulagement. On a vu des scènes en Chine dernièrement et les gens se sont émus. Eh bien, pensez à ce que ça devait être. Ça devait être épouvantable. Et de telles prisons sont pas seulement l'antichambre de la mort, c'est aussi la mort, hein, elle-même. L'interrogatoire décisif, celui qui envoie au supplice, a lieu pour les prêtres, là, au siège de la commission militaire à l'ancien couvent des Jacobins. C'est tous des anciens couvents. Hein. Tout proche de la cathédrale Saint-Maurice, la cathédrale Saint-Maurice était devenue le temple Maurice, imaginez, à la déesse Raison. Et pour les autres prévenus, on ne se donne même pas la peine de les tirer de leur prison. Ils sont interrogés sur les lieux mêmes de leur détention. Par des membres là de cette juridiction d'exception, et qui se rendent à la prison, puis tiennent audience dans le parloir. Alors, aux prêtres réfractaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, les juges réservent tous leurs soins. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en connaître davantage. Ils les questionnent assez longuement. Les tortures aux besoins, les prévenus, arrêtés à Angers, n'ont pas encore été interrogés, ont droit à un interrogatoire plus ou moins long. Ça comporte au moins une dizaine de questions. À une veuve du nom de Dumont, un nom qu'on voit ici, hein, d'Angers. Les juges demandent si elle aime bien la Constitution républicaine et s'il est vrai qu'elle a caché des ornements d'église, si elle a crié « Vive le roi » et combien de fois, et si elle a prêté serment au prétendu Louis XVII. Alors, les prisonniers arrêtés hors d'Angers, hors de la ville d'Angers, ont déjà été interrogés une première fois et là, les juges estiment qu'il n'y a pas lieu de recommencer. L'interrogatoire est alors réduit à sa plus simple expression. Et la sentence est toujours prononcée immédiatement, après l'interrogatoire. Pour les prêtres, ici encore, favorisés en quelque sorte jusqu'à un certain point, bien, le jugement de mort qui les concerne est rédigé avec soin. Ça comporte tous les attendus, toutes les références aux lois successives de proscription. Ils ont peur qu'on revienne contre eux, ces gens-là. Pour les autres condamnés, bien là, les simples, comme nous autres, les laïcs, mais le jugement tient en quelques lignes, la sentence en une lettre majuscule. Qu'est-ce que c'est qu'on met? F majuscule, ça veut dire fusillé. G, ça veut dire aguillotiné. Et l'ensemble formé par ce jugement sommaire et par cette sentence en forme de, on pourrait dire, d'initiale, porte le nom de notice d'exécution. Et là, la notice d'exécution prononcée contre Pierre Frémont. Je sais qu'il y a des Frémonts au Québec. J'en ai connu. Bien, Pierre Frémont, lui, le 9 février 1794, à la prison là, de la Citadelle, est rédigé comme ci, comme suit. Pierre Frémont, âgé de 40 ans, né à Chaudefonds, laboureur. Laboureur. Vous savez que le père Yves Girard, le trappiste là, qui nous parle à 8h30 le matin à Radio Ville-Marie, quand il était jeune, il était laboureur avec son père. Oui, il nous l'a dit il y a quelques jours à peine. Alors donc, c'est un laboureur vigneron, domicilié à Chaudefonds, arrêté chez lui par des citoyens il y a 5 jours. Il a monté la garde plusieurs fois pour les brigands, c'est-à-dire les Vendéens, qu'on appelait des brigands, ces pauvres gens qui voulaient être fidèles à l'Église, qui l'ont armé, dit le texte, pour le faire. À le voir, il était un fanatique prononcé. Il a aussi crié « Vive le roi ». Alors en marge, on écrit F, fusillé. Et c'est ainsi que ces gens crèvent les uns après les autres, Des interrogatoires, les sentences dans leur concision bien brutale font bien apparaître les motifs des condamnations à mort, or les motifs d'ordre religieux, car je vous parle des seuls martyrs béatifiés, sont toujours présents et souvent ils prédominent. Parfois ils sont les seuls motifs invoqués par les juges. Et c'est ainsi que ces martyrs sont morts, et je continuerai tout à l'heure pour vous raconter l'héroïsme au moment de mourir de ces gens merveilleux qui souvent portent nos noms. Quelques-uns des prêtres martyrs ont suivi un moment cette armée vendéenne qui voulait résister à la Révolution. Les Vendéens, c'est la Vendée, n'est-ce pas? C'est une petite région de la France, près de la Bretagne, près de l'Atlantique. Et même parfois, on dit des messes, donc, pour ces gens qui étaient traités de brigands par les révolutionnaires. Mais les prêtres n'ont jamais porté les armes. Cela n'empêche pas les juges de les accuser de complicité puis d'intelligence avec l'ennemi. Et toutefois, le crime qui les condamne est d'avoir enfreint une loi, la loi du 16 août 1792, et qui parlait de la déportation des prêtres réfractaires, les prêtres qui n'avaient pas voulu signer la soumission à la Révolution en refusant au fond d'obéir à Rome, au pape. Ils n'ont pas voulu quitter la France, quand même, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ils n'ont pas voulu être déportés. Et comme ça, ben, ils encouraient la peine de mort parce qu'ils administraient les sacrements et aidaient les gens qui voulaient rester fidèles à une église, une sainte, qui est l'église unie, l'église catholique romaine. Et en effet, la loi du 19 mars 1793 punissait de mort les prêtres qui étaient rebelles à la déportation. Et en fait, cette espèce de on pourrait dire de péché originel de ces prêtres-là, c'est d'avoir refusé de prêter le fameux serment civique de 1790, on vient de vous parler, le serment de fidélité à cette révolution. C'est là leur tare. C'est la cause de leur martyre. Les juges le savent bien. Ils ne manquent pas de les interroger sur ce point. Ils vont lui dire, « Mais tue-toi. As-tu prêté serment ?» demande-t-on à Joseph Moreau. Joseph Moreau? Mon Dieu, c'est un nom d'ici, ça. Alors lui, il répond que non. Et on lui dit, « Pourquoi ?» Que l'Assemblée, ayant laissé la liberté des opinions, il ne l'a pas prêté parce que ce n'était pas la sienne. Et alors, il y a aussi les deux religieuses, les filles de la charité dont je vous ai parlé, Marianne Vaillot et Adine Baumgarten, qui sont condamnées pour refus de serment. Ah, ça, c'est très beau, cette scène-là. Il ne s'agit pas ici du serment civique là, de 1790 des prêtres, mais du nouveau serment dit de liberté-égalité, exigé de tous les citoyens depuis le mois d'août 1792. C'est un assez beau serment, en fait. L'Église s'y oppose pas. Et nombre de prêtres et de religieuses ont en conscience refusé de le prononcer. Pourtant, je vous le dis, l'Église ne condamne pas le serment liberté et égalité. Elle proclame martyrs la sœur Vaillot puis la sœur Baumgarten parce que ces deux religieuses ont obéi à la voix de leur conscience, tout simplement. Elles ont cru devoir être fidèles, peut-être d'une façon un peu exagérée. Pour tous les autres condamnés, le motif religieux principal, c'est la condamnation à mort, et c'est la compromission avec un prêtre réfractaire, un prêtre qui désobéissait à l'État, mais qui était fidèle à l'Église. Alors ils ont secouru ces malheureux prêtres qui étaient proscrits, ils les ont nourris, ils les ont cachés. C'est comme ça, ça rappelle, vous savez, les gens qui cachaient les Juifs, tous ces gens qui ont caché des Juifs et qui en sont morts durant la dernière guerre. Quel héroïsme, hein? Quel héroïsme! Ils ont assisté à des messes clandestines de ces prêtres. C'est pour cela qu'on les tue. Perrine Androuin déclare au tribunal que le motif de son arrestation est qu'elle a logé un prêtre réfractaire qu'elle croit se nommer Benoît. Tiens, un autre nom québécois. Pendant un jour, elle l'a simplement logé pendant un jour. Et on lui dit, cela suffit. F qu'on met, ça veut dire affusier. Le juge demande à Marie Cassin, « Avez-vous été à la messe des prêtres réfractaires ?» Et elle répond « Oui ». et cela suffit, on inscrit tout de suite F à fusiller. Elle a dit oui. Elle n'a pas cherché à protester et à mentir. Elle savait qu'elle en mourrait en disant oui. C'est si simple de mourir martyr pour ces gens-là. C'est extraordinaire, hein? Car l'assistance à la messe d'un prêtre réfractaire, c'est considéré comme un acte contre-révolutionnaire. C'est, dans le langage de ses juges, un crime de fanatisme, disait-on, ou encore un crime d'aristocratie. C'est absolument invraisemblable. Rien à voir avec les aristocrates, pourtant. Jeanne Bourigaud, qui va mourir, c'est une pauvre paysanne. Elle est pourtant condamnée pour ce même motif. C'est écrit « suspectée d'aristocratie » parce qu'elle n'allait point à la messe des prêtres assermentés. Imaginez, une pauvre paysanne suspectée d'aristocratie. En somme, l'aristocratie, ça devient la fidélité aux prêtres proscrits. Puis le mot fanatisme, c'est synonyme d'aristocratie. Incroyable. Sa notice d'exécution, d'ailleurs, dit de Jeanne Gourdon. Aimant les bons prêtres, oui, c'est ça qui est écrit. Aimant les bons prêtres, fanatique prononcée. On l'accuse d'être une fanatique prononcée. Alors on met F, donc à fusiller. Un refus est donc à l'origine de toutes les condamnations à mort. Un refus des prêtres de jurer. Refus des religieuses de désobéir à leur conscience. Et refus des innombrables laïcs, très très nombreux, d'adhérer à la nouvelle Église et d'abandonner les prêtres fidèles. Où serait notre courage s'il fallait qu'on passe par là, hein? Quitter notre Église qu'on méprise, ce serait pour nous presque rien, hein? Pour ça qu'il faut apprendre à l'aimer, cette Église, malgré ses faiblesses, et la voir dans toute sa splendeur intérieure, hein? Notre Église du Québec. Il faudrait pas qu'on abandonne nos prêtres qui seraient fidèles. Car ils seraient très nombreux, j'en suis sûr. Ces refus ne sont pas une simple désobéissance civile, hein. Ce que ces prêtres et ces laïcs refusent, c'est l'Église d'État instituée par la Constitution civile du clergé qui a été votée le 12 juillet 1790, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une Église schismatique, comme on dit en langage théologique, c'est-à-dire c'est une Église séparée de cette union tant voulue, désirée et aimée par le fondateur de l'Église, Jésus-Christ lui-même. C'est une Église schismatique, hein? Puisque ces évêques ne reçoivent pas leur juridiction du pape, l'unité se fait sous la juridiction du pape. C'est notre point de vue à nous, catholiques. Mais nous avons aussi, dans le cœur, cette unité de l'amour, hein, qui nous fait aimer nos frères orthodoxes, nos frères anglicans, nos frères protestants. Et nous souhaitons tellement cette unité que nous les considérons comme nos frères et nos sœurs, hein. Oui. Comme le pape qui les reçoit et qui les embrasse. Et qui les aime. Et nous aussi, nous pouvons les embrasser et les aimer. D'un amour chrétien total. Hein? Et par leur refus, mais ces chrétiens-là, ces martyrs d'Avrillé, confessent leur fidélité à l'Église catholique. Ils meurent pour l'unité de l'Église. Leur sacrifice est parfaitement voulu. C'est délibérément accepté. Et c'est après mûre délibération qu'ils en ont choisi le parti. « Ma conscience et ma science, déclare l'un des prêtres, ne m'ont jamais permis de faire le serment exigé. » Il meurt. Les martyrs n'invoquent jamais des consignes qui seraient reçues d'en haut, ni même les déclarations du pape contre la constitution dite schismatique. Ils parlent toujours de leur conscience à eux, de leur opinion à eux, de ce qui habite leur cœur. François Bélanger, c'est un nom bien d'ici, déclare que son opinion était de préférer les prêtres réfractaires. L'interrogatoire s'achève. Le greffier, très rapidement, rédige la sentence. Encore quelques heures de délai, une demi-journée, une journée tout au plus. Et les voici envoyés à la mort, et les condamnés vont à la guillotine, ces prêtres. Ils sont 15 à subir ce genre de mort. Sont jugés le matin, sont exécutés l'après-midi à 4 heures. Les juges assistent à l'exécution. L'échafaud se dresse place du ralliement. Imaginez, ça c'est L'échafaud, c'est pas possible, mais c'est à l'emplacement même où s'élevait le maître-autel de l'église Saint-Pierre, en l'honneur du premier pape, hein, qui avait été démoli en 1791. Un prêtre réfractaire, l'abbé Simon Gruget, dissimulé derrière les volets d'une fenêtre, est présent à toutes ces exécutions-là, mais il n'a pas été... On ne sait pas, on ne le connaît pas, il est derrière une fenêtre. Il donne l'absolution à ceux qui vont mourir, il est tout prêt. Il écrit dans ses mémoires, l'instrument fatal était assez près de moi pour que je puisse non seulement le voir, mais encore donner l'absolution à tous ceux qui étaient condamnés à mort. J'entendais les cris, ou plutôt les hurlements qu'on faisait de chaque tête qui tombait. Et je voyais les chapeaux qu'on levait en l'air aux cris de « Vive la République !» en signe d'approbation. Il est fusillé, 84, périssent de cette manière. Ils sont liés, conduits à pied jusqu'au parc de La Haye aux bons hommes, en dehors de la ville. À l'époque de la Révolution, c'était un endroit peu habité, avec des bois, quelques champs cultivés, dont l'un devait servir pour l'exécution et aussi pour l'enterrement des victimes. On a cessé de fusiller dans la ville de peur que ces cadavres ne corrompent l'air par la puanteur. Le cortège des condamnés met du temps à se former. Il faut d'abord les extraire des différentes prisons de la ville, ensuite les rassembler, puis enfin les attacher. Des charrettes réquisitionnées par les paysans, chez les paysans plutôt, les paysans d'alentour, hein, mais viennent chercher les malades, les mourants. Oui, on transporte même des malades et des mourants pour les exécuter. Au calvaire, moi je vous ai parlé tout à l'heure, mais les conducteurs se rangent sous une fenêtre qui est placée à 2 mètres, 6 pieds au-dessus du sol. On pousse les condamnés qui tombent directement dans le chariot, qui s'entassent les uns au-dessus des autres. C'est épouvantable. Les gens valides sont réunis au siège du comité révolutionnaire qui est à l'ancienne église, l'église de la Trinité, imaginez. Et c'est là que les gendarmes attachent les bras des condamnés, les lient 2 par 2 à une corde centrale. L'opération se fait devant l'église. Il y a toujours quelques personnes secourables, heureusement, qui tentent de consoler les victimes. Ils sont audacieuses, ces personnes-là. Les deux filles de la charité, le Marianne Vaillot et Odile Baumgarten, reçoivent l'assistance d'une demoiselle Marthe, qui leur offre, ça émue tout le monde, qui leur a offert un voile, afin de cacher leur visage, pour que la foule ne voit pas l'angoisse qui pourrait habiter leur figure. Puis la chaîne, comme on dit, là, de tous ces pauvres martyrs se forme, et les jours de grande fusillade, elle est très longue, hein? 250 condamnés le 18 janvier. 400 le 1er février, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il y a donc un peu plus de 2 siècles aujourd'hui même. En tête, coiffés de leur bicorne empanachée, se dandinent les membres de la commission militaire qui sont suivis des juges du comité de surveillance. Et l'un de ces derniers, qui est un pharmacien, le pharmacien Goupil, c'est pas l'honneur des pharmaciens, armé d'une hache et d'un sabre, il se fait remarquer par son allure martiale et son assiduité aussi. Il est de toutes les fusillades. Il veut rien manquer, lui. Derrière les personnalités, ben, il y a les tambours. Derrière les tambours, il y a toute cette procession. De pauvres martyrs entre 2 haies de soldats. Au milieu de la chaîne se trouvent les charrettes des malades. Oui, les charrettes remplies de malades, empilées. Le convoi emprunte la rue Saint-Nicolas. Il sort par la haute porte dite lyonnaise, qui est flanquée de 2 tours, c'est la plus belle porte de la ville, et ensuite par le chemin dit du silence. Le chemin dit du silence. Vous savez, c'est le silence, les saints le disent, qui conduit le plus à Dieu dans l'oraison, le silence. Il faut faire silence. Donc, par le chemin dit du silence, et là on parvient au lieu de l'exécution. Le trajet, depuis l'église de la Trinité, part de la Trinité pour s'en aller vers la rencontre de la Trinité, justement. Ça représente environ 1 heure de marche. Il y a là, perdus au milieu des autres, quelques-uns des 99. Certains montrent un grand courage. Ils exhortent leurs compagnons. Ils prient, ils chantent. La sœur Marianne Vaillot chante les litanies de la Sainte Vierge. Oh, si vous avez un vieux missel, reprenez ça. C'est beau, les litanies de la Sainte Vierge. C'est donc beau, la poésie, le surréalisme qu'il y a là-dedans. C'est magnifique. Sont reprises en chœur par toute la chaîne. Et Marie-Louise, la sœurinière, a une voix divine. Elle chante les psaumes. Puis, à l'approche du lieu de l'exécution, elle entonne le cantique populaire du père de Montfort. Oui, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, le fondateur des Montfortins, là, du Sainte-Marie Reine des Cœurs, ici à Montréal. Tout ça, tous les gens connaissent ce cantique pour l'avoir chanté dans l'émission. Voici les paroles. « Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. » Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours, et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Et alors plusieurs martyrs livrent un dernier combat au moment d'être liés. Madeleine Saillant d'Épinatz, jeune fille de 24 ans, s'oppose à ce qu'on l'attache. Et elle dit, très fière, c'est une noble, qu'on me tue, qu'on me massacre ici. Mais je ne veux pas qu'on m'attache pour me conduire avec les autres à la mort. Mais sa mère et sa sœur aussi, qui partagent le même sort, réussissent à la calmer, puis à lui faire accepter justement son sort. Arrivée au lieu du supplice, Madame Saillant d'Épinatz, la mère, donne aux soldats ses bracelets. Et elle demande à ses filles, dont elle redoute une faiblesse peut-être, qu'elles soient fusillées avant elle afin de les soutenir. Émue d'autre part par la beauté de Marie-Louise de la Sœurinière, un officier s'approche d'elle et lui propose de lui sauver la vie en l'épousant. Il dit, sois mon épouse et je te sauve la vie. Mais, répond-elle, sauveras-tu ma mère et ma sœur? Non, dit l'officier. C'est au-dessus de mes forces. Eh bien, conclut la jeune fille, laisse-moi mourir, je préfère le martyr. La vie sauve également pour les deux filles de la charité si elles acceptent de mentir, l'officier veut les épargner. Il y a du respect pour les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, qui étaient très réputées pour leur charité par toute la France. Il dira qu'elles ont prêté le serment. Il dit, je prends sur moi de dire que vous l'avez prêté et je vous donne ma parole qu'il ne vous en sera fait aucun mal. Alors elle lui dit, citoyen, non seulement nous ne voulons pas faire le serment dont tu parles, mais nous ne voulons pas même passer pour l'avoir fait. Alors il ne reste plus qu'à se laisser tuer. Et les fosses sont ouvertes. La veille, une équipe de 50 hommes envoyés par la municipalité les a préparés. Alors 20 condamnés sont détachés de la chaîne, sont dépouillés de leurs vêtements, comme le Christ au pied de la croix, et placés tout au bord. Ménard, oui, un dénommé Ménard, qui est commandant de la place, ordonne de tirer. Les tambours font un roulement pour couvrir le bruit de la salve. Et les cris des victimes et quelques corps basculent dans le trou. Et posément, les soldats rechargent leurs armes et ils tirent une seconde salve, puis ils s'avancent et à coups de sabre, de baïonnette et de hache, ils terminent ce qu'ils appellent leur travail. Quelle tristesse! Il y a quelques mètres de là, bien les autres condamnés attendent leur tour. Les malades sont précipités directement du chariot qui les a amenés dans la fosse. Puis trois hommes, comme des nazis, les fusillent jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après les exécutions, bien des revendeuses ramassent les vêtements pour aller les proposer en ville et faire un peu d'argent. Les juges et les soldats rentrent à Angers. Et qu'est-ce qu'ils font, les juges et les soldats à Angers? Eh bien, le soir de chaque fusillade, ils ont un banquet qui leur est offert pour les payer de leur peine. C'est beau, la fraternité et l'égalité. Quand on ne croit pas que Dieu existe, c'est comme ça qu'on est. Quelle tristesse! Quelle tristesse! On ne peut pas comprendre le courage de ces martyrs si l'on ne sait pas quel christianisme les avait fortifiés. Ces prêtres, ces femmes, ces jeunes filles étaient les enfants d'une véritable chrétienté. C'était celle de l'ancienne France, et plus précisément celle très très florissante des campagnes de l'Ouest, d'où nous venons, nos ancêtres viennent de là. On les avait baptisés le jour ou le lendemain de leur naissance. Comme moi, je suis né un 4 septembre, j'étais baptisé le 5. C'était comme ça. Et à 6 ans, ils avaient suivi le premier catéchisme, comme on faisait dans mon temps. Puis après un catéchisme plus détaillé, ils avaient communié. Oui, ils avaient communié. Pour la première fois. Vous savez que nos premières communions, C'était, même pour des gens très honorables et loin du christianisme, leur plus beau souvenir, notre première communion. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, mon Dieu? Tous les dimanches de leur vie, ces chrétiens avaient assisté le matin à la messe de la paroisse, et le soir, ils allaient aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement, comme on faisait quand j'étais jeune dans les années 30. On aimait ça, aller aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement. Et on chantait les Tantum Ergo. On savait tout ça par cœur à 7-8 ans, en latin. On leur avait inculqué la dévotion au chapelet aussi, puis le catéchisme leur en avait expliqué le sens, car le catéchisme expliquait le sens de ces choses-là, et ils les comprenaient. On leur avait enseigné les exercices même de la dévotion au Sacré-Cœur, c'est une très belle dévotion, qu'on dise ce qu'on voudra, quand elle est bien comprise dans le sens de l'amour de Jésus, et en particulier l'exercice de la réparation aussi, qui commence par ces mots « Mon cœur s'est préparé à subir toutes sortes de probres et de tourments. » Enfin, ils avaient tous suivi au moins une fois dans leur vie les exercices d'une prédication paroissiale prêchée par les Montfortins ou les Lazaristes ou les Jésuites. Ils avaient participé à ces immenses processions, des missions, des prédications en l'honneur du Saint-Sacrement ou de la Croix, des cortèges solennels qui avaient été comme des figures de leur chaîne de victimes qui vont mourir. Ils étaient les fils d'un christianisme chaleureux, plein de vitalité, conquérant, optimiste. Ce christianisme dévot du XVIIIe siècle, religion du grand nombre des Français, une minorité seulement ayant versé dans l'incroyance et le matérialisme. Ah, ces gens-là étaient préparés surnaturellement à l'épreuve terrible qu'allait fondre sur eux. Et depuis plusieurs mois, certains d'entre ces martyrs avaient fait le sacrifice de leur vie. Par exemple, René-Marie Feyatro avait répondu à des voisins qui l'invitaient à la prudence. Pourquoi n'y aurait-il pas des martyrs comme il y en a eu autrefois? Alors, les martyrs sont vénérés aussitôt après leur mort. Les premiers documents qui attestent l'existence d'un culte populaire datent déjà de 1796, 2 ans après les exécutions. Cette année-là, des rapports de police signalent à l'attention des autorités les grands rassemblements qui se font au lieu dit du champ des victimes, au champ des martyrs. Il vient là quantité de monde, notamment les dimanches et fêtes, et même après le soleil levé. Le premier dimanche de juin, ont afflué plus de 400 personnes au début. Par exemple, dans la matinée, on a vu arriver une procession venant de la paroisse de Prunier, chantant des hymnes. Et lorsque le 15 juin, les commissaires de police, envoyés pour enquêter sur place, pénètrent dans l'enclos, qu'est-ce qu'ils aperçoivent? Mais planté au beau milieu du champ, il y avait déjà une croix de bois noir, avec à ses pieds un petit crucifix d'ivoire, oui, ces beaux petits crucifix d'ivoire de cette époque. Il y avait là un chapelet, aussi une bouteille d'eau bénite, et plusieurs couronnes et bouquets, et 2 billets portant les inscriptions suivantes. Je prie les bons catholiques de prier Dieu pour notre conversion et pour notre guérison, de prier les saints martyrs. En 1818, plusieurs familles se sont réunies pour acheter le champ des martyrs. Il y a eu un premier projet de monument qui a échoué à cause d'une campagne de presse anticatholique. Mais lancé beaucoup plus tard, en 1847, un second projet a abouti grâce à une souscription. Et finalement, l'évêque d'Angers a béni la chapelle du champ des martyrs en 1852. Il l'a placée sous le patronage de Saint-Louis et organisé le culte. Et c'est là qu'on vénère, depuis ce temps-là, ces martyrs merveilleux. Ces gens, ces laïcs courageux. Il existe aussi un culte domestique des martyrs à l'intérieur des familles, des descendants. C'est le cas en particulier de la dévotion à Perrine Turpeau. De génération en génération et jusqu'à nos jours, les descendants de cette mère de famille, oui, c'était une mère de famille qui figure parmi les 99 béatifiés, mais ses descendants n'ont cessé de la prier, en lui adressant ses charmants et à la prière du soir, chaque jour, l'invocation suivante, « Bienheureuse grand-maman, priez pour nous. » Je trouve ça bien émouvant. Elle est encore aujourd'hui invoquée pour les enfants malades ou à naître dans les futures mères. Le climat de l'aggiornamento depuis le concile n'a pas toujours favorisé cette dévotion aux martyrs. Les autorités diocésaines même ne l'encouragent guère. À partir de 1974, ont eu diverses contestations. Ça posait à l'évêque d'Angers et à l'association diocésaine qui était propriétaire du champ et de la chapelle. Ça opposait une association plus conservatrice, l'association pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Louis et l'Association des descendants des martyrs. Or, le 3 mai 1977, le tribunal de grande instance d'Angers, parce qu'il y a eu un procès, a prononcé que les familles des victimes ont un droit inaliénable à cet enclos funéraire. Ils ont condamné l'association diocésaine, imaginée de l'évêque, à laisser ouvert les accès à l'enclos et à la chapelle. C'est incroyable quand on pense à ça. Mais cependant, la béatification, le 19 février 1984, par le pape Jean-Paul II, des 99 martyrs, vient de donner un nouvel essor à cette dévotion populaire. La cause avait été introduite en 1905. Son aboutissement, après 79 années d'efforts persévérants, de requêtes et de prières, a suscité dans tout l'ouest de la France un grand enthousiasme. Et l'on a vu à nouveau les foules remplir l'enclos, cet enclos des fusillades et des martyrs. Aujourd'hui, la petite chapelle est restaurée, réappropriée, et elle reçoit un courant ininterrompu de visites. Et le pèlerinage des martyrs d'Angers avait décliné un moment, mais il commence à revivre. Heureusement, heureusement, et ça confirme ce que disait le pape lors de la canonisation, où il a déclaré des choses absolument admirables que j'aimerais bien vous lire et que je vous lirai une autre fois. Oh, il a dit, « Ce qui frappe, c'est la simplicité du témoignage. » Ils ne cherchaient pas à passer pour des héros, à étonner ou à provoquer. Le martyr est venu comme par surcroît, requis par la fidélité. Oui, requis par la fidélité.